Vous écoutez
RMC. RMC, 5h-6h, Charles Matin,
Anaïs Castagna.
Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 5 août, vous écoutez Charles Matin, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle matinée d'infos et de débats avec vous au 32-16. Au sommaire ce matin, le second volet de mesures sur le pouvoir d'achat a été définitivement adopté par le Parlement. Parmi les mesures, la possibilité pour les entreprises volontaires de racheter des RTT à leurs salariés, ça concerne uniquement le privé. On va voir comment ça va fonctionner. Ce qui est sûr, c'est que ça ne fait pas l'unanimité. La majorité et les Républicains y voient un moyen de répondre au problème des pénuries de main-d'œuvre en récompensant le travail et en augmentant la rémunération nette des salariés. Mais la gauche et les syndicats sont vent debout. Ils affirment que ça va surtout permettre de ne pas augmenter les salaires et de remettre en cause les 35 heures. Vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est un coup de pouce bienvenu pour le pouvoir d'achat? Est-ce que vous seriez prêt à sacrifier votre repos pour de l'argent? Vous réagissez au 32-16 sur l'application Direct Studio et sur la page Facebook Les Matins RMC. On entendra notre reportage à 5h10. On parlera également ce matin de la baisse des prix des carburants. Le prix du litre de gazole était notamment de 1,87€ la semaine dernière, soit une baisse de 5,61 centimes par rapport à la semaine précédente. Dites-nous ce que ça change concrètement pour vous. Est-ce que ça va avoir, par exemple, un impact sur vos vacances? On y revient ensemble à 5h40. Et puis, il y aura évidemment tous nos rendez-vous, dans la Story Sport à 5h30, juste après le journal. Cédric Dandeville va nous parler de cette joueuse de basket américaine condamnée en Russie à 9 ans de prison pour trafic de drogue. Les États-Unis dénoncent une détention abusive. Dans l'été d'Angèle, à 5h50, on écoutera de la bonne musique. Elle va nous parler des sorties d'albums qu'il ne fallait pas rater. Et puis on va jouer à la voix du jour aussi dans quelques minutes. D'abord la météo avec Anthony Kazmarek. Bonjour Anthony.
Bonjour Anaïs, bonjour à tous.
Il y a eu de la pluie et des orages cette nuit.
Oui, et on est content, mais malheureusement ça ne suffit pas évidemment pour combler la sécheresse. On a relevé à Paris seulement 4 mm de pluie sous cet orage. La normale en août c'est 44 mm. Donc il faudrait qu'il tombe encore 10 fois ce qu'on a eu cette nuit pour avoir un mois d'août normal, et on en est loin puisque les 7 prochains jours seront secs sur tout le pays. Néanmoins, ce matin, il y aura encore quelques orages du centre au nord-est, puis dans l'après-midi, uniquement sur les reliefs, et ils seront parfois violents, notamment à l'est du massif central, et puis ailleurs, après quelques nuages ce matin, voire un voile de nuages dans le sud-ouest, retour à un temps très ensoleillé, sec, notamment de la Bretagne jusqu'au Poitou-Charentes et jusqu'à la Gironde, ainsi que des Hauts-de-France à l'Île-de-France. Toujours du soleil, mais du vent près de la Méditerranée. Les températures seront respirables partout, ou presque, que sauf dans le sud-est où on aura encore 35 à 37 degrés. Il fera 31 à Bordeaux, 28 à Nantes, 26 degrés de saison à Paris et 23 à Lille.
Merci beaucoup Anthony.
Vendredi 5 août,
l'info sur RMC.
Il est 5h, bon réveil à tous, c'est l'heure du journal de Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Anaïs, bonjour à tous. Après 3 semaines d'intenses débats, l'ensemble des mesures pour le pouvoir d'achat validé, un premier test pour le gouvernement. Il faut sauver le beluga perdu dans la Seine, d'importants moyens déployés. L'animal est mal en point. Le foot, reprise de la Ligue 1 ce soir, Lyon-Ajaccio. RMC vous dévoile le plan de la Ligue de football pour faire revenir le calme dans les stades.
Ça y est, c'est bouclé. Le Parlement a voté les dernières mesures pour le pouvoir d'achat hier.
Le premier grand chantier du nouveau quinquennat est terminé. Un paquet de mesures à 65 milliards d'euros pour faire face à l'inflation. J'en cite quelques-unes. La poursuite du bouclier tarifaire sur l'énergie, la remise carburant, la revalorisation des minima sociaux. Tout ça a été validé. Dans une assemblée sans majorité absolue, les débats ont été longs. 3 semaines en tout et les négociations ardues, Hélène Terzian.
Les parlementaires de la majorité présidentielle sont réalistes. Oui, le texte est adopté. Oui, des compromis ont été trouvés. Mais Xavier Iacovelli, sénateur Renaissance, reconnaît que c'est au prix de très longues discussions.
C'est vrai qu'on aurait aimé que tout soit réglé au 14 juillet pour que rapidement nous puissions faire la promulgation de cette loi. Maintenant, ça ne me fait pas peur d'être obligé de négocier texte par texte.
Des négociations qui ont surtout penché à droite. Rachat des RTT, ristourne sur le prix du carburant sont des mesures obtenues par le groupe LR. Preuve pour le député Pierre-Henri Dumont que son parti est faiseur de roi.
On a une opposition qui obtient des choses, parfois au forceps, parfois contre l'avis du gouvernement, qui est obligé ensuite de se plier à ce qu'on leur a imposé.
Attitude plus efficace, selon lui, que celle des extrêmes.
Ils ont servi à quoi les députés RN et les députés LFI, à part claquer leur pupitre et crier ?
Pas de victoire sur le fond, mais selon Bruno Cotrès, chercheur à Sciences Po, les députés de la NUPES ont réussi à imprimer leur vision.
La NUP est arrivée un peu à imposer dans l'opinion publique sa problématique, la rémunération du travail, et il faut toucher à l'échelle des salaires.
Une session mouvementée avant d'attaquer les sujets brûlants de la rentrée, réforme de l'assurance chômage, débat sur l'immigration et réforme de la retraite.
Et ça sera en octobre, la rentrée. Hélène Terzian de notre service politique à l'international. Ces accusations très fortes qui pèsent sur l'armée ukrainienne. L'ONG Amnesty International affirme que des civils ont été mis en danger volontairement pendant la guerre. Des bases militaires ukrainiennes auraient été installées dans des écoles et des hôpitaux. Kiev se dit indigné et parle de désinformation. Conséquence de ces tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Russie. Dans ce cas-là, la star américaine du basket Brittney Griner a été condamnée à 9 ans de prison sur le territoire russe. Elle a été reconnue coupable de trafic de cannabis. Elle avait été arrêtée en février à Moscou avec une vapoteuse au cannabis. Pour le président américain, la peine est inacceptable. Washington propose pour obtenir sa libération de procéder à un échange de prisonniers.
Et on y reviendra tout à l'heure avec Cédric Danneville dans la Story Sport, juste après le journal de 5h30. Retour en France, un peu de répit côté météo.
La vague de chaleur en reflux pour quelques jours. Ça va être bref, hein. Les températures sont quand même encore élevées, notamment dans le sud de la France. On va en profiter pour souffler un peu. Un mercure qui dépasse régulièrement les 35 degrés. Ce n'est pas sans conséquence. Dans le sud de la France, justement, les coups de chaud se multiplient, Estelle Henry.
Au SAMU du Vaucluse, le téléphone sonne beaucoup depuis début juillet, 5 à 10% de plus qu'en temps normal pour des conseils médicaux concernant des coups de chaleur, soit une cinquantaine d'appels par jour. Et les profils sont très variés, explique Tania Pétel, la responsable du centre.
Ça va des personnes les plus jeunes avec des bébés, aux personnes les plus âgées, mais même des personnes qui sont des travailleurs entre les 30 et 50 ans.
Des coups de chaud qui se manifestent de différentes manières.
Ça peut aller du petit malaise avec simplement des œdèmes liés à la chaleur. Ça peut aller aussi avec la syncope. C'est le vrai coup de chaleur où on va avoir une température, un malaise très important et une perte de connaissance.
Des cas graves qui se multiplient et qui provoqueront des décès, c'est inévitable, selon le porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France, Christophe Prudhomme.
On aura sûrement une surmortalité liée à l'accumulation de ces vagues de chaleur plus importante que les étés précédents. On le sait parce qu'on a suffisamment de recul. Toutes les périodes de forte chaleur l'été qui arrivent de manière brutale entraîne une surmortalité.
Et l'urgentiste lance un appel à la vigilance tout particulier envers les plus de 50 ans sous traitement pour des maladies chroniques comme le diabète ou l'hypertension qui les rendent très vulnérables aux coups de chaud.
Prenez soin de vous surtout et attention, les températures pourraient à nouveau s'emballer la semaine prochaine. Autre conséquence de la chaleur et de la sécheresse, les feux ont repris dans les Alpes de Haute-Provence. Deux incendies qui avaient pourtant été fixés par les pompiers sur les communes de Niozel et de Rougon. 800 hectares de forêt sont partis en fumée depuis hier soir. 300 pompiers et 7 canadairs sont mobilisés.
Tu nous as parlé hier, Marguerite, du Beluga perdu dans la Seine. Eh bien, d'importants moyens ont été déployés pour le sauver.
Il se rapproche de Paris et ne va pas bien. Ce sont les dernières nouvelles. Le fleuve bruyant, pollué, ne réussit pas du tout aux cétacés. Cette espèce est davantage habituée aux eaux glaciales de l'océan Arctique. Le but maintenant est de guider l'animal vers l'embouchure de l'estuaire. Une opération délicate, Aymeric Dantreuil.
Autour de l'écluse de Saint-Pierre-la-Garenne, toute une équipe s'affaire.
Il y a les plongeurs, il y a une équipe de drones, il y a un poste de commandement.
Patrick Hérault est sapeur-pompier volontaire de l'Eure dans l'unité drone chargée de suivre les déplacements du Beluga.
On l'a localisé, mais la difficulté, c'est d'arriver à le suivre. Il n'arrête pas de plonger, de remonter.
Pour les spécialistes des cétacés dépêchés sur place, l'enjeu est maintenant de déterminer le comportement de l'animal. Isabelle Dorlia-Pouzet, la secrétaire générale de la préfecture de l'Eure.
Il y a deux bateaux avec des professionnels à bord qui sont en train de l'observer, son comportement, sa physionomie, sa pigmentation, pour voir si c'est un animal en souffrance, compte tenu du fait qu'il n'a plus d'eau salée depuis un certain temps.
Selon le résultat des observations, une procédure d'évacuation adaptée de l'animal sera mise en place, explique Elodie Pouet. Elle fait partie de l'ONG Sea Shepherd France, qui participe sur place aux opérations.
L'option la moins invasive, c'est un drive, le guider en fait vers la mer avec un bateau. L'autre option, c'est de le sortir et de le ramener par une voie terrestre, mais ça serait lui causer un énorme stress, c'est quelque chose qu'on veut absolument éviter.
En mai dernier, une orque repérée dans la Seine avait fini par mourir de fatigue et de maladie.
Aymeric Dantreuil avec les équipes de BFM TV. On vous tiendra évidemment au courant de l'évolution de la situation, de ce qui va se passer pour ce Beluga sur RMC.
Bah, j'y compte bien. Le foot et la reprise de la Ligue 1, c'est ce soir.
Lyon affronte Ajaccio pour cette première journée. Coup d'envoi à 21h. Un objectif pour cette saison, des stades apaisés. RMC vous dévoile ce matin le plan d'attaque de la Ligue de football. Nicolas Pelletier, les mois derniers, avait été marqué par des violences dans les tribunes.
Il y a un an, lors d'un Montpellier-Marseille, Valentin Rongier était touché en plein visage par une bouteille. Cette saison, le club héraultais a décidé de prendre les devants en installant des filets derrière les buts. Pierre-Marie Grappin, responsable de la sécurité du club.
C'est un filet qui est à petite maille, qui est notamment destiné à empêcher le jet des briquets, parce que nous avons une quantité invraisemblable à chaque match.
Les briquets pourront encore entrer dans les stades cette saison. Les bouteilles d'eau, elles seront en revanche interdites. Autre nouveauté, un policier référent chargé de faire le lien entre les autorités et les fans. Kylian Valentin, porte-parole de l'Association nationale des supporters, le répète, une meilleure formation des stadiers reste la priorité.
La solution la plus simple et la moins restrictive, c'est de mettre en place des stadiers. Sauf qu'on sait que les clubs sont confrontés à une pénurie de stadiers depuis la fin Covid. Là, en passant directement, comme on l'a vu la photo à Angers ou à Ajaccio, directement par le système de cage, c'est-à-dire qu'on passe tout de suite au tout restrictif.
D'autres mesures pourraient être prises en cours de saison. Un rapport sur les violences dans les stades commandé par la Ligue au criminologue Alain Bauer sera rendu fin septembre.
Lyon-Ajaccio, c'est à 21h et c'est à suivre sur RMC, évidemment.
Merci beaucoup Marguerite, à tout à l'heure avec toute l'équipe d'Apolline Matin. C'est l'heure de jouer sur RMC.
RMC,
la voix du jour.
La voix du jour, c'est cette voix qui vous permet de commencer la journée avec des cadeaux. Je vous rappelle le principe, il faut tendre l'oreille pour reconnaître la voix de cette personnalité.
J'ai décidé la création d'un fonds de 3 millions d'euros pour créer 10 nouveaux centres LGBT+, en France, et renforcer les 35 qui existent déjà.
Alors, je ne vais pas vous donner trop d'indices aujourd'hui, puisque c'est vraiment facile. Je vous dis seulement Matignon. Si vous avez reconnu, vous faites le 32-16, et vous repartirez peut-être avec une crème de la marque Kirinès. Bonne chance à vous, et un sac de plage, j'allais l'oublier. À suivre dans Charles Matin, notre débat du jour. Le Parlement français a adopté définitivement le second volet du paquet pouvoir d'achat. Il prévoit la possibilité pour les entreprises privées de racheter des RTT à leurs salariés. On va tout vous expliquer et je vous attends évidemment au 32-16. Dites-nous si vous y êtes favorable. Est-ce que c'est un coup de pouce bienvenu pour le pouvoir d'achat? Est-ce que c'est un moyen de ne pas augmenter les salaires? Est-ce que vous pourriez être intéressé? Vous nous dites, à tout de suite.
RMC jusqu'à 6h. Charles Matin.
Anaïs Castagna.
Il est 5h10, vous écoutez RMC. Bon réveil à tous. Êtes-vous prêt à sacrifier votre repos pour gagner plus d'argent?
C'est la question du jour sur RMC.
Le second volet donc de mesures sur le pouvoir d'achat, définitivement adopté par le Parlement hier. Parmi les mesures, la possibilité pour les entreprises volontaires de racheter des RTT à leurs salariés. Alors, je vais tout vous expliquer parce qu'il faut être très clair. Ces RTT monétisés seront exonérés de toute cotisation et impôt. Le salarié pourra demander de monétiser autant de RTT qu'il le souhaite, mais l'entreprise sera en droit de refuser. Seuls les salariés du privé seront concernés. La situation ne va pas changer pour ceux qui ont un CET ou ceux qui sont au forfait jour. Ce sera possible jusque fin 2025. Le but pour la droite, pour la majorité, c'est d'augmenter la rémunération des salariés qui souhaitent travailler plus et lutter contre les pénuries de main-d'œuvre. Mais la gauche et les syndicats y sont formellement opposés. Ils dénoncent la fin à peine déguisée des 35 heures et un moyen de ne pas augmenter les salaires. On est allé voir justement les premiers concernés pour vous entendre ce qu'ils en pensaient. Reportage signé Alexandra Siergan.
Échanger des RTT contre de l'argent, une mesure plutôt bienvenue pour certains salariés.
Ça peut mettre un petit peu plus de beurre dans les épinards, moi je trouve ça bien.
Souvent ce qu'on fait en fait, c'est l'employeur nous impose de prendre des RTT à la dernière minute, sinon on les perd. Du coup, au moins ici, ça nous laisse le choix de récupérer de l'argent à la place.
Mais à condition de bien avoir le choix.
En fait, on a des RTT quand on fait plus d'heures que ce qui est autorisé techniquement. Et c'est pas pour rien qu'on les a en fait. Donc si on s'en sort pas, effectivement, qu'on se les fasse racheter, pourquoi pas. Mais qu'on puisse pas non plus dire à un employé « Non, tes RTT, je les donnerai pas, je vais te les payer, mais tu travailleras quoi ».
Selon la loi, le rachat des RTT se fera à la demande du salarié, avec l'accord de l'employeur, comme Fabrice Godefroy, directeur général du groupe IDLP, une entreprise spécialisée dans la prévente automobile. Plus de la moitié de ses salariés sont éligibles à cette mesure.
Il y a des périodes où évidemment il y a un peu plus de travail.
Donc, dans cette période-là, peut-être qu'on pourra voir avec l'employé d'une façon réciproque si ça l'intéresse de travailler au lieu de faire une RTT. Donc, ça nous permet d'avoir des salariés disponibles à ce moment-là. Donc oui, évidemment, quand c'est gagnant-gagnant, bah, c'est plutôt positif.
Les journées seront payées avec une majoration de salaire d'environ 10%, bien en dessous de celle des heures supplémentaires, dénonce Michel Boga, secrétaire confédéral du syndicat Force Ouvrière.
Pour le salarié lambda, si j'ose dire, une heure supplémentaire est rémunérée 25% de plus. Voilà, et ça, c'est bien la différence, en fait, entre le rachat de RTT qui aurait dû, si vous aviez fait les heures, être payé à 25%, et là, un rachat juste avec 10% de complément. Il y a bien évidemment un manque à gagner pour les salariés.
Les syndicats déplorent également que cette aide ne concerne pas tous les secteurs, notamment celui de l'hôtellerie-restauration ou de l'aide à la personne.
Alors, on va voir ce que vous en pensez au 32-16. Rémi nous appelle de Grenoble. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Vous êtes agent d'entretien. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas?
Non. C'est... Bah, écoutez, là, vous venez de passer un reportage, les gens ont tout dit. Je veux dire, déjà, le tout premier problème, c'est que c'est encore une circonvolution pour pas toucher au salaire. Mmh. Je veux dire, ça commence, enfin, la ficelle est énorme maintenant, on voit que ça. Je veux dire, on fera tout dans ce gouvernement pour contenter la droite et ne pas toucher au salaire.
C'est votre principale crainte, c'est que du coup les entreprises n'augmentent pas leurs salariés.
Ben, quel autre intérêt ça? Sinon ils auraient simplement dit bah écoutez les salaires sont trop bas, on les augmente. Mais là du coup ça va être encore des heures qu'on peut racheter, qui sont prises sur du temps de repos qu'on est censé avoir mérité en faisant plus que son taux horaire normal. Mmh. Qui sera même pas au taux normal des heures supplémentaires mais seulement à 10%, ce qui fait qu'en plus c'est une escroquerie. Oui. Parce qu'en plus, c'est une escroquerie.
Contre 25% pour les heures supplémentaires.
Ouais. Voilà, donc c'est super. Et ça crée un rapport de conflit avec les patrons, parce que dans l'idée, oui, tout le monde est consentant, tout le monde sait si l'ouvrier veut, sait si le patron veut, etc. Soyez un ouvrier d'un boulot peu qualifié et allez voir le patron qui vous dit « Écoute, ces RTT-là, tu les prends pas, je les paye, c'est comme ça et puis c'est tout ». Et regardez combien.
Alors en théorie, c'est ce qu'on a entendu dans le reportage d'Alexandra. L'employeur ne pourra pas obliger. Je dis bien en théorie parce qu'on sait comment ça se passe au travail.
Voilà. Oui, c'est comme en théorie, on peut pas obliger les gens à venir à telle heure ou à telle heure. Mais je vous assure que moi, je suis agent d'entretien.
Vous êtes sceptique.
Et autour de moi, j'en vois des gens. On peut pas les obliger à ci, on peut pas les obliger à ça. Mais je vous jure que s'ils le font pas, ils regrettent. Alors, ça aussi, hein, c'est mignon d'y penser quand on est dans un open space d'une grande boîte où tout se passe, tout est tout rose. Mais c'est absolument pas la réalité.
Hein. Rémi, est-ce que je peux vous demander combien vous gagnez?
Moi, ah oui, mais moi je suis à mon compte. Hein. Je suis
plus vous êtes à votre compte. Ah d'accord. Ok.
Donc, okay. Voilà, donc là, moi je gagne 1 400 €. Là.
Vous gagnez 1 400 € à votre compte.
Voilà.
D'accord. Ça fait longtemps que vous êtes à votre compte?
Un an.
Parce que, pourquoi vous êtes mis à votre compte? Vous y retrouviez plus dans la gestion du planning, financièrement?
Oui, bien sûr, c'est ça. C'est le planning, c'est ne pas... Oui, c'est tout, bah, tous les avantages classiques du fait d'être indépendant, surtout dans ce milieu où c'est beaucoup plus avantageux en termes d'organisation. Quoi.
Oui. Merci d'avoir appelé Rémi ce matin au 32-16. Vous êtes au boulot, là?
Oui.
Vous venez de commencer la journée?
Non, moi, j'attaque à 3h20. Moi.
D'accord, ok. Eh ben, je vous souhaite bon courage et à très vite, Rémi, sur bonjour. RMC. Vous continuez à réagir, évidemment, au 32-16 et sur Direct Studio. C'est l'heure de notre nouveau rendez-vous.
Les artisans de nos régions.
Jusqu'à la fin du mois d'août, on va vous faire découvrir des métiers méconnus, des professions ancrées dans les territoires. Et après avoir parlé des cidriers normands hier, on a choisi de mettre en lumière les producteurs de piment d'Espelette aujourd'hui. C'est la seule épice, appellation d'origine protégée, produite sur le sol français. On en trouve dans les fromages, la charcuterie, dans les huiles et dans toutes sortes de produits au Pays Basque. Le piment d'Espelette y est cultivé depuis le XVIIe siècle. Reportage de Marie Sante sur l'exploitation de l'atelier du piment dans le village d'Espelette.
Vous connaissez déjà un petit peu le piment d'Espelette ou pas trop? Oui. On va faire tous les jours de ce piment, hein, à la place du poivre.
À la place, voilà, c'est ce qu'on nous a dit.
Pour tout savoir de cette épice, direction les parcelles de l'exploitation, 13 hectares de piment gorilla cultivé par Louis Pradille et son équipe. Tout commence en février.
On fait nous-mêmes nos plants de piment qu'on va élever environ un mois et demi, deux mois sous serre à partir de nos semences paysannes.
Les plants sont ensuite piqués à la main en mai. Le piment d'Espelette, une appellation d'origine protégée, pousse dans une zone bien délimitée.
C'est tout petit, hein, c'est 400 hectares, plus petit que le champagne.
400 hectares sur 10 villages dans une cuvette naturelle entre les montagnes. Ici, il pleut souvent et le climat chaud et humide plaît à cette plante d'Amérique centrale. Les premiers fruits seront ramassés dans 10 jours, 450 grammes de piment par pied en moyenne.
Il faut attendre qu'ils soient complètement rouges et mûrs pour être ramassés. C'est la même famille que les tomates, c'est les solanacées. Donc là, vous voyez, ça par exemple, c'est un des premiers piments qu'on pourra ramasser. Il n'y a pas besoin de sécateur pour le ramasser, tout se fait uniquement à la main.
Les plus beaux fruits servent à faire des cordes de piment, les autres sont réduits en poudre après plusieurs semaines de maturation, séchage et un passage dans le four.
Et au bout de deux jours et demi, on sort le piment qui est alors cassant, un peu comme une chips, et on va le broyer.
La poudre est ensuite goûtée par un jury, elle se vend près de 90 euros le kilo.
Il faut avoir des arômes un peu de tomates mûres et de poivron, et après une pointe d'amertume et le piquant qui vient progressivement, entoure un peu le palais mais qui ne brûle pas.
Le piquant, c'est à cause d'une molécule, la capsaïcine, comme l'explique Lison aux visiteurs.
Est-ce que tout le monde voit bien cette échelle?
Oui.
C'est l'échelle de Scoville. Donc quand on est au numéro 1, c'est doux, c'est neutre, comme le paprika doux. Plus on va monter au numéro 10, plus on va retrouver les piments les plus forts au monde, qu'on considère même d'explosifs. Notre piment d'Espelette, il se classe numéro 4, donc il n'est pas bien méchant. Vous allez voir en dégustation.
Une dégustation progressive de la gelée de piment sucré au caviar plus concentré.
Allez, bon courage, messieurs, dames.
Ça pique.
Vous faisiez les malins jusqu'ici, mais...
Bah là, ça pique vraiment, là. Enfin, pas vraiment, mais ça pique un petit peu.
Le remède, surtout pas d'eau, mais du riz, du lait ou du fromage. Et c'est bon à savoir, car ici, du piment, on en met partout, dans les plats, le chocolat... et même les boissons.
Alors, vous vous rappelez comment on trinque? Au Shashuna?
Ah oui, le piment d'Espelette dans le chocolat, bah, je connaissais pas, j'ai pas encore testé. Pourquoi pas? Merci Marie-Sainte de nous avoir emmenés au Pays Basque ce matin. Je vous donne la suite du programme. À 5h40, on va parler de la baisse des prix des carburants. On verra que certains ont décidé de partir en vacances en voyant que les prix diminuaient. C'est peut-être votre cas, vous nous dites au 32-16. Et puis, ce matin, notre débat du jour. Les salariés pourront désormais convertir leur RTT en rémunération supplémentaire avec l'accord de l'employeur plutôt que de les poser. Rachat possible jusque fin 2025. Est-ce que vous en réjouissez? Pour la gauche, c'est la fin des 35 heures à peine déguisées et un moyen de ne pas augmenter les salaires. C'est ce que nous disait Rémi au 32-16. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous réagissez. À tout de suite. À la une ce matin sur RMC, les éleveurs et producteurs se mobilisent pour une augmentation du prix du lait. Les charges sur les exploitations flambent à cause de l'inflation et de la guerre en Ukraine. Pourtant, le prix du lait payé aux producteurs reste le même. Écoutez le témoignage de Pascal, producteur dans la Sarthe. Il fait part de ses difficultés.
J'ai beaucoup d'investissements, j'ai des comptes à rendre à mon banquier. J'ai pas le choix, il faut que ma trésorerie soit équilibrée. Et elle se dégrade à une vitesse folle. Quand j'arrive pas à équilibrer ma trésorerie, qu'est-ce que je fais? Je vends des vaches. Mais c'est les vaches qui me font le lait. Donc je vais faire à terme de moins en moins de lait.
Alors Michel Biérot, directeur de Lidl France, viendra nous parler de ce problème à 7h40. On verra s'il est prêt à aider nos producteurs. À retenir également ce matin dans l'actualité, la basketteuse américaine Brittney Griner a été condamnée en Russie à 9 ans de prison pour trafic de drogue. Les États-Unis dénoncent une détention abusive. Ils demandent à la Russie de procéder à un échange de prisonniers. On va y revenir dans la Story Sport juste après le journal de 5h30. Et puis le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse l'organisation Amnesty International de tenter d'amnestier l'état terroriste de Russie. Je cite, après que l'ONG a reproché à Kiev de mettre en danger des civils dans le cadre de la guerre avec Moscou. Les températures baisse, Anthony.
Oui, 17 à Paris ce matin contre 21 hier, 12 seulement actuellement à Rennes. Dans l'après-midi, la baisse va se poursuivre partout, sauf dans le sud-est, où d'ailleurs il fait déjà doux voire chaud ce matin. On sera encore entre 34 et 37 degrés de la vallée du Rhône à la Méditerranée, où l'alerte à la canicule devrait se maintenir. Et puis ailleurs, ce sera respirable avec souvent en dessous de 30 degrés, 23 à Lille, 26 à Paris, 28 à Nantes, encore 30 certes à Limoges et 33 à Strasbourg, avec des orages qui se cantonneront uniquement dans l'après-midi sur les reliefs. Ailleurs, déjà retour à un temps sec et ensoleillé.
Merci beaucoup Anthony, c'est l'heure des insolites de Quentin.
Les insolites de Quentin.
On démarre avec cette histoire, bonjour Quentin.
Bonjour.
Incroyable, un scientifique français a trompé tout le monde en postant une photo sur Twitter. Il s'appelle Étienne Klein, il est directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique. Il a posté sur son compte Twitter une photo, c'est ça ?
Oui, exactement, la photo de Proxima du Centaure, étoile la plus proche du Soleil, située à 4,2 années-lumière de la Terre. Alors la photo est incroyable, tellement nette. C'est vraiment impressionnant d'avoir ce genre de détails. On voit une belle planète rouge avec à sa surface ce qui s'apparente à des cratères. La photo est vraiment, vraiment impressionnante. Étienne Klein explique qu'elle a été prise il y a 3 semaines grâce au télescope spatial de la NASA, James Webb. C'est vraiment bluffant, mais je suis désolé de vous le dire, ce n'est pas réel. Hélas, la photo de cette magnifique planète, Proxima du Centaure, est en fait une photo d'une tranche de chorizo sur fond noir qu'il a posté sur Twitter.
Il est chaud, le chorizo.
Pas mal, je la connaissais pas cette musique. Non mais attends, une tranche de chorizo, pourquoi il a fait ça?
Alors, un petit peu pour s'amuser, mais aussi pour inciter à la prudence à propos des informations qui circulent sur le net. La photo a été commandé, partagé des milliers de fois. Étienne Klein faisant figure d'autorité scientifique sur Twitter, les gens ne se sont pas posé de questions. Et voyant l'engouement qu'il a suscité autour de cette photo, il a rapidement avoué que c'était un canular. Il s'est même excusé sur les réseaux sociaux. Une mise en garde qui doit servir de leçon à beaucoup d'entre nous. Attention à ne pas croire à tout ce qu'on voit sur Internet. Les internautes se sont d'ailleurs bien amusés à nous montrer leur découverte de nouvelles planètes à base de nourriture diverses et variées. En attendant, vivement les prochaines et vraies images du télescope James Webb.
Autre histoire ce matin, l'un des voleurs de chiens de Lady Gaga a été à nouveau arrêté, c'est ça ?
Oui, c'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis. Le 21 février dernier, le promeneur de chiens de Lady Gaga s'est fait tirer dessus avant qu'on lui vole 2 chiens de la chanteuse. Après ce vol, Lady Gaga offrit une récompense de 500 000 dollars quand même à quiconque lui ramenait ses 2 trésors.
Mais j'aurais bien aimé lui ramener,
oui,
moi.
Là, on aimerait bien les trouver, ouais. En précisant en plus qu'elle ne poserait pas de questions, on voulait juste retrouver ses chiens. À ce moment-là, une femme a ramené les 2 chiens à la police, prétextant les avoir trouvés attachés à un poteau. Mais la police s'est rendue compte qu'elle était en fait avec le père de l'un des 3 voleurs et qu'elle avait pour mission de récupérer la récompense.
Ah oui,
ça aurait pu rapporter gros, mais en fait, la bande, la seule chose qu'elle a gagnée, c'est un voyage en prison.
Ah oui, donc elle avait promis 500 000 euros en disant « je ne poserai pas de questions », mais quand même... Bah là, pouvait pas en rester là.
Ils se sont fait avoir par la police, donc au final...
L'un d'eux a été quand même relâché, c'est ça ?
Oui, James Howard Jackson a pu être libéré le 6 avril dernier à cause d'une erreur administrative et pour être plus précis, une faute de frappe. Alors autant vous dire qu'il n'a pas demandé son reste, hein, il s'est enfui dès qu'il en a eu l'occasion. Après plus de 4 mois de recherche et une récompense de 5000 dollars offerte par le FBI pour toute information permettant de capturer le fugitif, il a de nouveau été arrêté mercredi. L'histoire finit bien pour la chanteuse et ses chiens, moins bien pour James Howard Jackson qui est de retour en prison et qui attend maintenant sa sentence.
Merci beaucoup Quentin. On va passer à la voix du jour. On va voir qui a gagné.
RMC, la voix du jour.
Bonjour Alain.
Bonjour.
Alain, ça fait longtemps que je ne vous ai pas eu. Comment ça va ?
Ah bah oui, tous les matins, moi j'écoute.
Bah, je m'en doute, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé.
Ah bah oui.
Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir. Oui. Alain, vous nous appelez de Grenoble, vous aussi, décidément.
Grenoble, il fait 40 degrés.
40 degrés, non peut-être pas quand même.
Mais on a là, encore un petit peu de l'eau, nous, à Grenoble.
Ah, comment ?
On a encore un petit peu de l'eau, il y a des rivières.
Ouais. Alain, vous pensez avoir découvert la Voix du Jour ce matin ?
Bah oui, c'est...
Ah, attention. N'allez pas trop vite, on va la réécouter, on aura votre réponse juste après.
J'ai décidé la création d'un fonds de 3 millions d'euros pour créer 10 nouveaux centres LGBT+, en France, et renforcer les 35 qui existent déjà.
Alors, est-ce que vous avez reconnu La voix du jour.
C'est pas Elisabeth Borne ?
Mais si, si, vous avez bien reconnu la première ministre qui a annoncé hier la création d'un poste d'ambassadeur aux droits LGBT. Bravo, mon cher Alain.
Bah oui.
Vous faites quoi en ce moment ? Vous allez partir, vous allez partir quelques jours ?
Et non, je suis à la retraite, un boulanger à la retraite.
Vous êtes un boulanger à la retraite ? La retraite n'empêche pas de partir, de s'échapper, je sais pas, d'aller
montagne,
un petit peu à la mer.
Dans les
oui.
Lacs.
Oui, c'est vrai que vous, à Grenoble, vous avez plutôt de la chance quand même. Hein. Vous avez tout à côté. Hein.
Il y a des montagnes, un peu de la neige.
Évidemment. Écoutez, bravo mon cher Alain et à très vite sur
Merci.
RMC. Il est 5h27, vous écoutez RMC. On passe ensemble toute cette matinée. On va parler donc de ces RTT très largement. Vous continuez à réagir au 32-16. Dites-nous si vous seriez intéressé justement, si vous voulez vous les faire payer. Si vous pensez tout simplement que pour les employeurs, c'est une façon de ne pas augmenter les salaires. Vous nous dites ce matin au 32-16, la météo et le journal dans un instant, à tout de suite. 5h29, vous écoutez RMC, bon réveil à tous. Anthony Kaczmarek est avec nous pour la météo. Les fortes chaleurs régressent dans le sud-est ?
Oui, c'est là-bas qu'il fera encore le plus chaud en cours d'après-midi avec 34 à 37 degrés. C'est là que la vigilance devrait aussi se maintenir tout à l'heure à 6 heures. Partout ailleurs, ce sera bien respirable. Alors, il fera encore 31 du côté de Cognac, 33 à Strasbourg, mais 28 à Nantes, 26 à Paris et Biarritz, 23 à Lille. Les quelques orages que nous avons ce matin dans le nord-est vont se cantonner uniquement sur tous les reliefs en cours d'après-midi. Ils seront parfois violents vers le massif central. Prudence. Et puis, dans toute la moitié ouest, retour à un temps sec, ensoleillé, avec un petit vent de nord qui sera bien frais et bien agréable.
Merci beaucoup Anthony. Vous écoutez RMC, bon réveil à tous, c'est l'heure de retrouver Stéphane Geneste pour le journal. Bonjour Stéphane.
Bonjour Anaïs, bonjour à toutes et à tous. La brique de lait à 78 centimes d'euros dans les supermarchés. Pour le consommateur, ce n'est pas cher, mais pour les producteurs, ce n'est pas suffisant pour vivre. C'en est fini de la troisième vague de chaleur. On va enfin pouvoir respirer, mais la sécheresse est toujours là. Et pour répondre au manque d'eau, des usines de dessalement d'eau de mer voient le jour. Et puis Amnesty International charge le régime ukrainien. L'ONG estime que l'armée ukrainienne a mis volontairement en danger des civils.
À la une ce matin, la colère des producteurs de lait. Ils se mobilisent pour être mieux rémunérés.
Des nombreuses manifestations se sont déroulées ces derniers jours un peu partout en France, à Clermont-Ferrand, à Vannes ou encore à Saint-Flour, c'est dans le Cantal. Ils dénoncent le prix du lait. En moyenne, il coûte aux consommateurs 78 centimes le litre contre 99 en Allemagne ou encore 1,05 en Belgique. La France, championne d'Europe du prix du lait le plus bas, un titre dont les exploitants agricoles se seraient bien passés, d'autant que leurs charges ont explosé ces dernières semaines. Conséquence, Mathieu Limongi, cette situation ne leur permet pas d'avoir un salaire digne.
Dans cette exploitation qu'il gère depuis 35 ans, Pascal produit 1 million de litres de lait chaque année. Pourtant, aujourd'hui, plus que jamais, il s'inquiète pour ses finances.
Situation qui, aujourd'hui, ne nous permet pas de faire face. J'ai beaucoup d'investissements, j'ai des comptes à rendre à mon banquier. J'ai pas le choix, il faut que ma trésorerie soit équilibrée. Et elle se dégrade à une vitesse folle.
Pour chaque litre de lait, Pascal touche 42 centimes. Mais le prix des matières premières et ses coûts de production ont explosé. La marge qu'il récupère est donc très faible, seulement 4 centimes.
Quand j'arrive pas à équilibrer ma trésorerie, qu'est-ce que je fais ? Je vends des vaches. Mais c'est les vaches qui me font le lait. Donc je vais faire à terme de moins en moins de lait.
Alors les syndicats demandent que la loi Egalim soit renforcée, une loi censée permettre une plus juste rémunération des producteurs. Mais aujourd'hui, elle serait mal appliquée selon Guilain Deviron. Il est président de la section laitière de la FDSEA du département.
Il n'y a plus personne qui respecte la loi Egalim, aussi bien les transformateurs que les distributeurs. Comme avant la loi, le distributeur prend sa marge, le transformateur prend sa marge et puis on donne ce qui reste aux producteurs.
Syndicats et éleveurs alertent pour que la filière française du lait puisse survivre. Les consommateurs devront payer plus cher leur brique de lait.
Et on y revient tout à l'heure sur RMC à 7h40. Michel Biérot, le directeur de Lidl France, est l'invité de Sébastien Krebs dans Apolline Matin.
La crainte de la préfecture de Haute-Corse, dans 25 jours, si la sécheresse continue comme ça, il n'y aura tout simplement plus d'eau dans le département de Lille. Le préfet appelle donc à l'effort collectif. Il mise sur une économie d'eau. Autre stratégie mise en place sur l'île de Beauté, dessaler l'eau de mer pour alimenter les habitants en eau potable. Une usine de dessalement va bientôt entrer en fonction à Rogliano, Kevin Gasser.
Oui, ce village au nord du Cap Corse et quelques communes voisines bénéficieront bientôt de cette toute nouvelle infrastructure pour remplir leurs réserves d'eau douce grâce à l'eau de mer, une première en Corse.
Un combat que je mène depuis le mois de janvier.
Patrice Quilici est le maire de cette commune de 600 habitants.
Les travaux de génie de branchement d'eau sont réalisés. Les conteneurs vont commencer à arriver à partir du 20 août. Il y a un puisard qui pompe l'eau, qui passe par plusieurs conteneurs dans un conteneur où il y a le système de filtration. Et elle sort potable.
L'usine devrait être opérationnelle le 15 septembre. Objectif dessaler 500 mètres cubes d'eau par jour pour alimenter le réservoir communal, où il ne reste que 15 000 mètres cubes, soit 2 à 3 semaines de consommation d'eau.
On va arriver à faire la jonction entre la mise en place, la production de l'unité de dessalement et le stockage. On va peut-être s'en sortir, mais on est dans le rouge.
Un investissement d'un million d'euros, dont 70% sont pris en charge par l'État et la collectivité.
Kevin Gasser pour RMC. En bref, la fin du marathon parlementaire pour le projet de loi pouvoir d'achat. Le paquet de mesures a définitivement été adopté par le Parlement hier. Entre autres, la revalorisation des minima sociaux, la poursuite du bouclier tarifaire sur l'énergie ou encore la ristourne de 30 centimes qui reste en vigueur sur le prix des carburants.
5h34, on en vient à cette conclusion d'un rapport d'Amnesty International. L'armée ukrainienne aurait mis en danger des civils.
D'après l'ONG, des soldats ukrainiens auraient établi des bases militaires dans des écoles et des hôpitaux, bâtiments où étaient réfugiés bon nombre de civils. Conclusion immédiatement dénoncée par Kiev, qui parle de propagande et de désinformation, Florian Chevalet.
Les chercheurs d'Amnesty International ont trouvé des preuves de frappes ukrainiennes lancées depuis des zones résidentielles, peuplées, des bases militaires installées également dans des écoles et des hôpitaux, dans des villes et villages à l'est de l'Ukraine. Jean-Claude Samouillet est président de l'ONG en France.
L'armée ukrainienne aurait pu se mettre ailleurs, c'est-à-dire à la campagne, en dehors des villes, en dehors des villages, dans des zones boisées ou dans des sites militaires ukrainiens désaffectés pour lancer ces attaques. Et ainsi protéger sa population.
L'Ukraine, de son côté, se dit indignée par ces accusations et reproche à Amnesty International de mettre sur le même plan un pays qui détruit des villes et des milliers de civils et un autre qui tente désespérément de se défendre et de sauver son peuple, ce que réfute l'ONG.
On ne met pas les deux armées sur le même plan d'égalité. Il y a des atrocités sans nom et sans nombre qui sont commises par les forces russes. Mais là, en l'occurrence, les forces ukrainiennes ont violé le droit international humanitaire et nous, c'est notre devoir de le faire savoir.
Selon lui, l'armée ukrainienne aurait au moins pu évacuer les civils des zones résidentielles où se trouvaient les soldats.
Et c'est dans ce contexte de tension entre les États-Unis et la Russie que la star américaine du basket, Brittney Griner, a été condamnée à 9 ans de prison sur le territoire russe. Elle a été reconnue coupable de trafic de cannabis. La semaine dernière, Washington avait fait une offre à Moscou pour obtenir sa libération et celle d'un autre Américain détenu en Russie.
Nouveau week-end de départ en vacances, Bison Futé voit tout rouge demain, noir dans la vallée du Rhône.
Et une fois arrivé sur la plage, peut-être allez-vous croiser un stand de l'établissement français du sang, puisque le FS effectue des collectes sur le littoral. Objectif clair, hein, aller chercher les potentiels donneurs où ils sont en vacances et où ils ont logiquement un peu plus de temps que le reste de l'année, comme à 7, Lucille Pascanet.
15h, 33 degrés, la plage des Quilles se remplit de vacanciers, de potentiels donneurs pour Théo, agent d'accueil pour l'établissement français du sang. Son but, les amener jusqu'au camion de collecte pour qu'ils donnent leur sang.
Bonjour à tous, ceci est un message du temps du sang. Je vous informe qu'une collecte se déroule actuellement juste derrière vous.
Un message simple et clair qui fonctionne.
On était à la plage et on a entendu l'appel pour donner son sang et voilà.
Denis et Dagmar sont attablés devant un questionnaire. Ce don est imprévu, mais ils sont ravis.
Je suis très content.
On a l'impression d'aider quand même.
Jérôme, lui, s'est arrêté face au camion en chemin pour la plage. Le reste de l'année, il n'a pas le temps de donner.
Il y a moins de contraintes. Trois enfants, ils sont en train de faire de la voile et j'en profite pour donner mon sang.
Un contrôle du médecin, puis c'est le moment de la piqûre.
Allez, c'est bon. Vous pouvez les serrer.
5 minutes plus tard, il est libre ou presque.
Bien s'hydrater. Pensez vous baigner aujourd'hui. Donc, bien attendre 2 heures et pas tout seul. Oui.
Des collectes comme celle-ci, il y en a 2 par jour dans le Gard et le Languedoc. Lucie Doumoulin, chargée de promotion du don, les organise.
Les malades ne prennent pas de vacances. Il y a toujours autant besoin de sang. C'est pour ça qu'on se déplace aussi sur les plages.
Les collectes littorales continueront jusqu'à fin août.
Et c'est ce soir que la Ligue 1 reprend ses droits, première journée de la saison. Et pour première rencontre, ce sera Lyon-Ajaccio, coup d'envoi à 21h. Début de saison aussi pour les championnats allemands et anglais. À 20h30, Francfort reçoit le Bayern Munich. À 21h, Crystal Palace affronte Arsenal. Et tous ces matchs, vous le savez, sont évidemment à suivre sur RMC.
Les courses à Cabourg. Hein.
Et je vous donne 20h15. Absolument, je vous donne les pronostics de la Dream Team des courses RMC. Leur favori, c'est le 6, Eke Juelo. L'outsider, c'est le 9, Flèche du Cèdre, à suivre évidemment sur RMC Découverte.
Le 6 donc, Eke Juelo, et le 9, Flèche du Cèdre. Merci beaucoup Stéphane. On te retrouve dans moins d'une heure avec Sébastien Krebs et toute l'équipe.
J'ai hâte.
nous aussi, évidemment, on a hâte de retrouver Sébastien. Le programme est encore extrêmement riche ce matin. C'est l'heure de la Story Sport.
La Story Sport.
Avec Cédric Danneville. Bonjour Cédric.
Salut Anaïs, salut.
Une star du basket derrière les barreaux, l'américaine Brittney Griner est condamnée à 9 ans de prison en Russie. Elle a été reconnue coupable ce jeudi de trafic de drogue.
Oui, c'est le visage baissé, c'est 2m06 enfermé dans la cage des accusés que Brittney Griner écoute l'énoncé de la juge russe. Mi-février, la joueuse de 31 ans avait été arrêtée à l'aéroport de Moscou avec du liquide de vapoteuse à base de cannabis, simplement de la consommation personnelle et médicale pour calmer des douleurs chroniques. Aujourd'hui, le verdict du parquet russe fait l'effet d'une bombe aux États-Unis. Jean-Éric Brana est spécialiste de la société américaine.
On ne l'explique pas, hein, puisqu'elle risquait entre 5 et 10 ans, qu'elle a tout fait pour que ce soit réduit. En plaidant coupable, personne ne comprend. Elle avait le soutien de tout le monde quand même, y compris de son club russe, hein, puisqu'elle était à l'intersaison aux États-Unis et elle en profitait pour faire quelques piges en Russie. Donc sa passion, c'était le basket.
Mais évidemment, en pleine guerre en Ukraine, l'affaire Griner dépasse très largement le cadre du basket pour devenir une affaire géopolitique pour Sylvie Berman, ancienne ambassadrice de France en Russie. La double championne olympique est d'abord une monnaie d'échange.
Les Russes ont toujours la main lourde, y compris quand il s'agit de ressortissants étrangers, a fortiori américains. L'idée, c'est aussi d'avoir un moyen de pression vis-à-vis de Washington pour proposer un échange de prisonniers.
Alors que les négociations continuent entre les deux pays, le basket américain reste pleinement mobilisé autour de celle que l'on considère comme l'une des meilleures joueuses de la planète. Odyssey Sims est une ancienne partenaire de Griner.
Je ne sais pas quoi dire, c'est du jamais vu, incroyable, ça semble irréel, mais j'espère que Joe Biden et la Maison Blanche font tout leur possible pour la faire sortir.
Alors justement, dans un communiqué, le président américain réagit et demande la libération immédiate de Brittney Griner. Ses avocats, eux, ont annoncé faire appel d'un verdict jugé complètement insensé.
Merci beaucoup Cédric Danneville pour la Story Sport. On te retrouve lundi, bon week-end à toi.
Bon week-end.
Et la Story Sport, c'est à retrouver évidemment en podcast sur l'appli RMC. Il est 5h40.
RMC, jusqu'à 6h. Charles Matin.
Anaïs Castagna.
On va parler ce matin des prix des carburants en baisse. J'imagine que vous l'avez constaté à la pompe ces derniers jours. Le prix du litre de gazole était de 1,87€ la semaine dernière, baisse de 5,61 centimes par rapport à la semaine précédente. Le super samplon 95 à 1,84€, moins quasiment 8 centimes. Et si on vous en parle, c'est que ça a des conséquences sur vous, des conséquences très concrètes. Apparemment, certains ont décidé de prendre la route des vacances en voyant que les prix avait baissé. C'est un reportage de Garance Munoz pour RMC.
Un plein de samplon 95, un pique-nique en musique.
Je pense qu'on va faire une grosse rave party pour fêter la baisse du prix du carburant.
À 1,80€, le samplon 95, soit 6 centimes de moins que la semaine dernière. Thomas et son ami Mathieu sont contents de faire des économies sur leur voyage dans le Lot-et-Garonne.
On est de la chance, franchement, on a vraiment été surpris par le prix qui diminuait. Tiens, il y a un mois, on payait 2,20€ et quelques. Maintenant, c'est redescendu à 1,80€. Ça fait plaisir. Franchement, par rapport à avant, c'est ça, on se fait une économie de... J'irais 40€. Avant, on payait peut-être 40€ de plus pour 8 heures de route. Ouais.
Pas certain qu'au retour de vacances, le prix à la pompe soit le même. Alexandre, qui part en Bretagne, lui, est un peu ronchon.
Moi, je me suis fait avoir, j'ai fait le plein juste avant que ça baisse.
Le prix à la pompe qui fait le yo-yo, à quand l'augmentation?
Je pense que ça va remonter. Je pense que l'État... fait en sorte d'alléger au maximum le portefeuille des gens. C'est pas magique. Il y a un moment où on pourra plus faire des réductions et aider les gens.
La baisse du prix des carburants va-t-elle durer alors que la ristourne offerte par le gouvernement doit s'arrêter fin 2022? Une nouvelle hausse est à prévoir, d'après Olivier Appert, conseiller énergie à l'Institut français des relations internationales.
Pourquoi ça pourrait remonter? D'abord, la défiscalisation coûte quand même très cher à l'État dans un contexte budgétaire des finances publiques qui est quand même tendu. Par ailleurs, la consommation mondiale de pétrole augmente et la production a tendance plutôt à stagner. C'est pas évident que ça va pouvoir durer quand même pendant très très longtemps.
Mercredi dernier, les 23 pays producteurs de pétrole ont consenti à une augmentation dérisoire de leur niveau de production pour le mois de septembre. Plus 100 000 barils par jour, pas suffisant pour faire baisser durablement les prix.
Alors, est-ce que vous allez changer vos plans? Est-ce que c'est suffisant ou pas? Venez nous dire au 32-16, je vous attends. Momo nous appelle de Vitrolles. Là aussi, ça faisait longtemps. Bonjour Momo.
Ah oui, ça fait un petit moment.
Ouais, ça fait un petit moment. Je suis contente de vous avoir, Momo.
Moi aussi.
Vous nous appelez d'abord pour réagir sur le carburant. Vous l'avez constaté, vous, j'imagine, à la pompe. Hein,
oui.
Cette baisse.
Là, je suis pas allé encore mettre le plein, parce que j'ai dit il y a deux semaines à peu près.
Ouais.
Donc, je pense que je vais aller en début de semaine prochaine. On va dire toute baisse, c'est pour apprendre.
Bah, évidemment, parce que ça pèse quand même très très lourd sur le budget des Français.
Oui.
En l'occurrence, sur le vôtre, qu'est-ce que ça représente le carburant pour vous?
Bon, alors, moi, j'ai une chance, on va dire terrible, parce que j'ai tout à côté de moi, j'ai tout à proximité en fait. Médecin, qu'il soit magasin, hypermarché, tout ça, j'ai tout à proximité. Le travail, il est à 16 km, mais c'est de l'autoroute et de national.
Ouais.
Et ça roule bien à la nuit. Donc, on va dire, en termes de consommation, ça va, quoi. Mais le problème, c'est le tout qui augmente. C'est plus.
Oui, il n'y a pas que l'essence, évidemment.
Il n'y a pas que l'essence.
Faire les courses, bien sûr.
Le plus, c'est ça.
Donc vous, cette baisse des prix des carburants, ça ne va pas changer votre quotidien?
Non, moi ça ne changera pas mon quotidien, et même ça aurait pas été un argument pour ne pas partir en vacances, quoi.
Non, ça, c'est vrai. Vous allez partir, Momo, vous avez des projets?
Non, moi je suis parti déjà.
Ah bon, vous êtes allé où?
Moi je suis allé à côté, je suis parti en Camargue.
Ouais.
Et voilà quoi, j'ai passé deux semaines, parce que moi, comme j'ai un petit bébé de 5 mois.
Mais c'est vrai.
Là, cette année, on va pas faire trop de route. D'habitude, je pars beaucoup plus loin.
Mm-hmm.
Et voilà, ouais, n'importe à côté, franchement, c'est régalé.
Bah, vous avez la chance d'avoir quand même des endroits magnifiques à proximité. Vous avez pas trop de route à faire pour vous régaler. Merci Momo d'avoir appelé au 32-16. Bon. C'était un plaisir de vous avoir. Vous êtes en week-end là?
Non, moi je travaille samedi. Hein.
Ah, bah bon courage à vous, hein. On pense fort à vous,
merci.
Momo. Passez une excellente journée. On a William aussi qui nous appelle au 32-16, parce que l'autre sujet sur lequel je voulais vous entendre ce matin, c'est les RTT qui vont pouvoir être monétisés par les salariés du privé. Bonne nouvelle ou pas? Vous nous dites ce matin, évidemment, on vous attend, on va en parler avec William qui nous appelle de Saint-Cyr-sur-Mer, dans le Var. Est-ce que William est là?
Oui, bonjour.
Bonjour William. William, bonjour. Vous êtes rondier, vous nous appelez de Saint-Cyr-sur-Mer. C'est une bonne nouvelle ou pas? Une bonne chose ou pas?
Ben, je sais pas, parce que je me sens pas concerné, parce que comme j'avais mis dans le message, j'avais dit il y a les oubliés de toutes ces réformes, c'est ceux qui sont annualisés.
C'est-à-dire que
vous avez un quota d'heures à faire dans l'année.
Ouais.
Et tout ce qui est heures supplémentaires est mis à disposition sur un compte et qui vous est payé au mois de mai, c'est-à-dire c'est de mai en mai.
D'accord.
Et en fait, l'annualisation, c'est-à-dire vous devez faire un minimum de 133 heures par mois, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire congés compris. Et en ce moment, avec la pénurie de...
Vous faites pas mal d'heures.
Voilà, on fait pas mal d'heures, donc du coup, bah, vous avez vos congés qui sautent. Vous faites des heures supplémentaires qui ne sont pas payées au mois, qui seront payées que l'année prochaine.
Donc, sont payées, donc vous avez inversement.
Ouais. Vous avez inversement à 25%, mais vous les touchez que l'année d'après. Donc, en fait, vous avez des frais de déplacement,
ouais.
des frais liés aussi pour tout au quotidien, mais vous avez votre paye qui ne bouge pas tous les mois et vous touchez que vos heures supplémentaires. au mois de mai. Alors, sur le papier, l'annualisation, c'est bonheur, parce que on se dit, on fait 133 heures par mois à payer 150. Mmh. Sauf que vous les faites jamais, en fait. Enfin, moi, ça fait maintenant, ça va faire 2 ans que je ne fais plus mes heures dites normales, quoi. Mmh. Alors, c'est vrai qu'on fait des heures supplémentaires et c'est vrai qu'au mois de mai.
Donc là, c'est pas la même chose, quand même. Là, on parle pas des heures supplémentaires. On parle des RTT. Donc, pourquoi vous n'y aurez pas le droit?
Ben, parce qu'en fait, moi, j'ai pas de RTT. On fait pas de, je gagne pas de jours de repos. En fait, moi, j'en perds.
D'accord.
J'en perds et je trouve que en fait ça fait maintenant des années que ce système est mis en place et que personne n'en parle et voilà, donc c'est, je trouve ça un peu, enfin voilà, mais que ce soit le gouvernement, même les, tout ce qui est inspection du travail, tout ça, dès qu'on cherche des renseignements, personne ne sait. Des juristes, tout ça, c'est très obscur.
Heures supplémentaires que vous faites, vous les faites payer donc une fois par an, vous pouvez demander à les poser ou pas, votre employeur vous dit non?
Non, c'est pas possible. Il y a pas de personnel pour faire les remplacements. Comme je vous dis, moi j'ai perdu. En fait, ça fait 2 ans que tous mes congés. Quand je prends mes congés, en fait, c'est des jours de repos qui sont mis à la suite.
Ouais.
Mais il m'arrive de prendre une semaine de congé et puis je fais 160 heures dans le mois. Donc une personne normale qui fait 150 heures, elle va faire 116, 117 heures par mois, un truc comme ça.
Ouais.
Voilà, moi je et puis c'est pas payé, quoi, c'est inclus dans l'annualisation, donc en fait vous perdez vos congés. C'est ce système là qui est obscur et qui permet aux employeurs de tenir,
mais parce que c'est compliqué, parce que pénurie de main d'œuvre.
Voilà.
Donc
là, j'ai fait cette année, pour l'année 2021-2022, j'ai fait 320 heures d'heures supplémentaires.
Ah mais c'est énorme.
Donc après,
mais
oui.
Mais question simple, est-ce que vous tenez le coup?
Difficilement. Ça va qu'on est une équipe qui tient le coup, qui est solidaire, qui est soudée. Je serais dans un autre service, je pense que j'aurais laissé tomber depuis longtemps. Je pense. Honnêtement, parce que c'est là par exemple le mois d'août, 190 heures.
Non, mais c'est de ça aussi. C'est de ça aussi qu'on parle ce matin. C'est de ça aussi, William, qu'on parle ce matin, de la récupération, de cette possibilité aussi pour les salariés de pouvoir se reposer, parce que oui, c'est important, l'argent, la rémunération, mais le repos aussi. Il faudrait pas non plus que ça soit un moyen de ne pas augmenter les salaires. On va y revenir ensemble. On va en parler au 32-16 tout au long de la matinée. Merci William de nous avoir appelé et d'avoir témoigné. Je ne connaissais pas cette situation. Vous faites comme lui, même réflexe que William. Vous faites le 32-16 et vous nous envoyez des messages ce matin sur Direct Studio. Il est 5h50. Dans un instant, il y aura l'été d'Angèle. On va écouter, je crois, de la bonne musique.
Exactement. Je vais un peu vous parler. On va se détendre et je vais vous parler des albums à rattraper. Profitez de l'été pour écouter de la musique.
Eh bien, j'ai hâte. À tout de suite. Il est 5h51 et 51 minutes. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur RMC. À la une ce matin, le second volet de mesures sur le pouvoir d'achat a été définitivement adopté par le Parlement. Parmi les mesures, je le rappelle, la possibilité pour les entreprises volontaires de racheter des RTT à leurs salariés. Seuls les salariés du privé sont concernés. On en débat ensemble toute la matinée. La Chine a choisi de surréagir à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. C'est ce que dit la Maison Blanche après les tirs balistiques effectués par Pékin près de Taïwan. Une activité provocatrice, disent les États-Unis. Ils ont décidé de reporter un test de missile intercontinental prévu dans les prochains jours pour éviter une nouvelle escalade. Et puis l'état du beluga, repéré dans la Seine, est jugé préoccupant par la préfecture de l'Eure. Il semble présenter des altérations cutanées et être amaigri. Vous saurez tout dans le journal de Marguerite Dumont à 6h. La météo avec toi, Anthony. Quel temps fera-t-il aujourd'hui? Est-ce que ça sera plus respirable? Il a plu cette nuit.
Oui, et ça fait du bien. Quelques orages qui, évidemment, ne sont pas suffisants pour atténuer la sécheresse. Mais il y en aura encore dans l'après-midi sur tous les reliefs. Et ils seront localement violents. On s'attend à une vigilance à 6h à l'est du Massif central. Et puis l'alerte à la canicule devrait aussi se maintenir finalement. Car la nuit a été étouffante dans les 26 départements en alerte. Mais retour d'un temps sec dans une bonne moitié ouest en cours d'après-midi. Et les températures devraient quasiment partout être inférieures à 32 ou 33 degrés. Sauf encore de la vallée du Rhône à la Méditerranée.
Courage aux habitants du Sud-Est. Merci beaucoup. C'est l'heure de l'été d'Angèle.
L'été d'Angèle.
Bonjour Angèle.
Bonjour Anaïs. Bonjour à tous.
Ça va bien?
Super.
Vendredi. Les vacances, c'est aussi vendredi, évidemment. Les vacances, c'est aussi l'occasion de prendre son temps, prendre le temps d'écouter des disques qu'on a mis de côté pendant l'année. Angèle, tu nous fais une petite piqûre de rappel de tous ces bons disques qu'on aura loupés.
Oui, alors c'est bien évidemment une liste non exhaustive, mais j'ai décidé un peu de compartimenter ça par ambiance. Alors déjà, c'est l'été avec le soleil, les vacances, on a envie de danser. Et pour vous y aider, j'ai la solution. Vous pouvez mettre sur vos enceintes le dernier album de The Weeknd. Le Canadien The Weeknd est le roi des records, notamment avec son tube Blinding Lights, que vous avez forcément déjà entendu, devenu la première chanson à rester pendant une année entière dans le top 10 des charts américains.
Je valide.
On adore. The Weeknd sortait donc en janvier dernier Down FM, son cinquième album numéro 1 des ventes dans plus de 10 pays à sa sortie et idéal pour danser cet été.
Ouais, ça nous en fait déjà un à rattraper. Je sais que toi, Angèle, t'aimes le rock.
Oui.
Je suis sûre que t'es pas la seule. Il y a quoi comme album à rattraper?
Eh bien, j'aimerais vous présenter le duo britannique Wet Leg, un mélange entre les Rolling Stones et Françoise Hardy. Leur tube Chaise Longue cumule déjà des millions de vues sur YouTube. Elles viennent de l'île de Wight en Angleterre. C'est la nouvelle sensation rock de cette année. Mais si vous êtes plutôt dans une ambiance chanson française, je vous blâme pas, d'autant qu'il y a eu de nombreux très bons albums de pop cette année. Clara Luciani, dont on vous a déjà parlé, mais aussi Juliette Armanet, reine des festivals de l'été.
Elle aussi, je l'adore. Mais encore une fois, je valide tous tes choix.
Cool, j'adore Juliette. Alors, c'est selon moi l'un des plus beaux albums de chansons françaises de ces derniers mois. Beau parce que dansant, entraînant, terriblement grisant en concert, mais aussi doux, poétique et amoureux. Mais si vous, votre truc, c'est le rap, alors il y a toujours l'album de l'américain Kendrick Lamar, vendu à presque 300 000 exemplaires rien qu'en une semaine. Hey, rich nigga, broke phone. Trying to keep the balance, I'm staying strong. Stop playing with me before I turn you to a song. Stop playing with me before I turn you to a song. Hey, bitch, I'm attractive.
Pourquoi pas, cet album donc de Kendrick Lamar. Il s'est pas mal vendu. Hein.
C'est très très bien vendu.
Ouais. On va demander à Sébastien Krebs ce qu'il préfère dans ta sélection, Angèle. Bonjour,
Bonjour
Sébastien.
Salut Anaïs, salut Angèle. C'est bien, on a la playlist pour le week-end.
Exactement.
C'est parfait.
Exactement.
Avec The Weeknd. Moi j'adore Juliette Armanet.
Aussi, ouais, je pense qu'on s'accorde là-dessus tous. Ouais.
Ça va
sur
bien,
scène notamment, elle est incroyable.
Ah, j'ai pas eu cette chance de la voir, mais il paraît.